Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. J'espère que vous m'entendez bien.
On t'entend bien.
Oui. Non, je pense que mon micro n'était plus ou moins ouvert. Oui, ça va. Donc, les Apatrides Anonymes, édition du 22 septembre 2022, en direct des studios de choc.ca à l'UQAM à Montréal. Donc, merci d'être à l'écoute à 18h30, tous les deux jeudis. Nous prenons cette plage horaire pour 70 minutes de contenu et aussi de musique, de contenu parlé aussi de musique. Donc, Mathieu est au micro avec vous à l'animation. Simon va faire des chroniques et des blocs. Bonjour Simon.
Salut Mathieu, salut Marie-Ève aussi.
Marie-Ève
est bien silencieuse pour l'instant.
J'y arrivais, elle est à la mise en onde. Seulement ce soir, on l'a empêchée de prendre le micro. Elle s'auto-censure en plus dans ce contexte très difficile de liberté d'expression. Donc,
liberté académique, là, ça va mal.
Ça va pas bien dans les médias universitaires. Donc, donc c'est surtout, c'est Simon et moi qui vont parler beaucoup ce soir, qui vont vous donner le contenu, mais Marie-Ève va vraiment faire la technique d'une main de maîtresse. Donc,
je peux plus rien dire.
On l'a entendu un peu, mais la gorge est un petit peu difficile aujourd'hui dans son cas. Donc, aujourd'hui à l'émission, comme d'habitude, les apatrides, c'est des enjeux de racisme, de frontières, d'immigration, droits humains. On va vous parler aujourd'hui de plein de choses. On va vous parler entre autres des élections provinciales. On voulait faire un petit bilan et aussi parler des plateformes, hein, Simon?
Y a-tu des élections qui s'en viennent?
Peut-être. Écoute, il y en a dans d'autres pays aussi. Je vais en parler tantôt.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Mais au Québec, le 3 octobre.
Oui, je vous parle de ça tantôt.
Exactement. On va parler aussi, évidemment, moi, je vais vous parler de la police de Saguenay, hein, avec les polices régionales. On aime bien ça, voir qu'est-ce qui se passe là-bas.
Ben oui, qu'il y a un goût de l'étrange.
Exactement. On va parler aussi, Simon va nous parler d'Amérique latine, quelques nouvelles sur l'Amérique latine, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Je vais vous parler de l'esclavage moderne, les nouveaux chiffres de l'ONU qui sont sortis la semaine passée. Parler aussi, il va y avoir l'agenda antiraciste, va y avoir de la musique aussi. 4 pièces aujourd'hui, on a de la place en masse pour en mettre, donc pour les amateurs de musique, ça va être assez intéressant aussi, toutes des nouveautés. Et je vais commencer dans quelques instants avec la Suède, surtout un peu la Finlande. Il se passe des choses là. Donc, je vous rappelle, vous écoutez l'émission Les Apatrides de Anonymes. Dit que j'allais vous voir là, je m'entends encore mieux. Je vous ai dit que je vais vous parler un petit peu d'élections qui ont eu lieu dans d'autres pays. Ben, juste vous dire qu'on va vous en parler dans 2 semaines sûrement, mais dimanche, il y a des élections en Italie, des élections législatives, et la droite et l'extrême droite devraient prendre le pouvoir pour la première fois depuis... Il y avait déjà eu des coalitions, mais là, vraiment, droite-extrême droite avec 3 partis.
Fratelli Italia.
Fratelli Italia, La Liga, évidemment, et Forza Italia de Monsieur Berlusconi. Donc, ça va être ça, le super gouvernement. Mais on en parle peut-être dans 2 semaines. Mais il y a une dizaine de jours, en Suède, victoire sans précédent de la droite et de l'extrême droite. On se répète. Un bloc inédit réunissant la droite et l'extrême droite a remporté le 11 septembre de justesse les élections législatives en Suède, chassant du pouvoir les sociodémocrates aux commandes depuis 8 ans. Maintenant, nous allons remettre de l'ordre en Suède, a réagi sur les réseaux sociaux le chef du Parti conservateur des modérés. C'est le nom, hein, sans farce.
Ça, il semble très modéré.
Oui, il s'appelle Ulf Kristersson, avec 176 sièges, dont 73 pour le parti d'extrême droite des démocrates de Suède. Il s'appelle comme ça en Suède, l'extrême droite. Donc, le bloc de 4 partis devance de très peu celui de la gauche à 173 sièges. Ça joue vraiment sur 1 ou 2 sièges. Donc, les démocrates de Suède sont les grands vainqueurs des élections avec 20,5% du vote et un nouveau rang de deuxième parti du pays après les sociaux-démocrates. Héritier d'un groupe néo-nazi à sa création en 1988, le parti d'extrême droite s'est peu à peu banalisé dans le paysage politique suédois, entrant au Parlement en 2010 avec 6%, puis grimpant à chaque élection, avec pour thème l'immigration et les problèmes de gangs criminels. Bien que les démocrates de Suède extrême droite, soit le premier parti de la majorité des quatre partis de droite. Son dirigeant n'est pas en mesure d'avoir le soutien des trois autres pour devenir premier ministre. Un des points les plus compliqués concerne l'ambition affichée par ce parti d'extrême droite de faire partie du gouvernement. Les trois partis de droite traditionnels, les modérés, les chrétiens-démocrates et les libéraux, sont défavorables à ce que ce soit lui le premier ministre, même si c'est lui qui a eu le plus de votes. Mm-hmm. Donc, le scénario le plus probable, c'est que les démocrates de Suède, l'extrême droite, appuient le gouvernement sans avoir de ministre directement là, au gouvernement. C'est ça l'hypothèse.
C'est une configuration un peu pas très fonctionnelle, j'imagine.
Ben, c'est des coalitions assez fragiles en général.
C'est ça.
Tout à fait. Donc, une victoire de la droite appuyée par l'extrême droite est synonyme d'une nouvelle ère politique pour la Suède qui doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier et finaliser sa candidature à l'OTAN. Parlant d'OTAN, ben, dans le cadre d'un accord visant à obtenir le soutien du gouvernement turc pour leur démarche d'adhésion à l'OTAN, la Suède et la Finlande ont promis de faciliter les extraditions vers la Turquie. La large communauté kurde et les opposants turcs en exil craignent une persécution politique. L'accord a été signé le 28 juin, ça fait un bout, ça ouvre la voie à l'entrée rapide des deux pays dans l'alliance à laquelle la Turquie s'opposait avant cet accord. Une clause en particulier préoccupe, les pays nordiques s'engagent à faciliter les extraditions de présumés terroristes, entre guillemets, qui pourraient inclure de nombreux membres de groupes politiques opposés au régime d'Erdogan.
La définition de terroriste en Turquie est très, très, très large. Là,
oui.
Ça va de journaliste à enseignant kurde.
Oui, ben exactement. Surtout kurde. Tout à fait, t'as raison. Puis c'est le cas dans d'autres pays aussi où c'est comme ça souvent, comme en Russie. Dès le lendemain de l'accord, la Turquie a présenté à Helsinki, à Stockholm, une liste de 33 demandes d'extradition qui concernaient des personnes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et au mouvement Gulen. Depuis, le président Erdogan a déclaré que la Suède avait promis, entre guillemets, d'extrader 73 personnes. Erdogan a également exigé que la Suède et la Finlande cessent tout soutien au mouvement kurde qui se battent contre l'État islamique en Syrie. Bravo. Mm-hmm. Le gouvernement suédois a ainsi annoncé début août une première extradition. Okan Kale, un homme condamné en Turquie pour fraude à la carte de crédit. Il figurait sur la liste des personnes recherchées par Ankara. C'est un peu bizarre. Un autre kurde, Mehmet Bouzkurt, Courte, 26 ans, a été arrêté le 19 août et menacé de renvoi vers la Turquie suite à un rejet de sa demande d'asile. Plusieurs membres de la communauté kurde estiment que sa détention est liée à l'accord avec Ankara en raison de son passé comme membre du Parti démocratique des peuples, le HDP, lorsqu'il avait 14 ans. Le HDP, principal parti pro-kurde et qui est aussi la troisième force politique du pays, est menacé de dissolution actuellement par le régime Erdogan. En terminant, ben, lui-même d'origine kurde, l'avocat Miran Kaki comprend l'inquiétude ressentie par les plus de 100 000 exilés membres de la diaspora vivant en Suède. Si vous êtes kurde et que vous avez été politiquement actif, il y a de réelles craintes que vous soyez éventuellement extradé.
Donc, de la Suède directement vers la Turquie.
Exactement, ou de la Finlande, dans ces deux cas, c'est les deux pays. Mais la Turquie a toujours pas donné son accord pour qu'il rentre dans l'OTAN. Là, c'est encore en négociation, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, d'ailleurs. On va aller en quelques notes de musique, et je vous reviens avec un petit bloc sur l'esclavage moderne. L'esclavage moderne a continué de s'étendre dans le monde ces dernières années, porté notamment par la pandémie, avec près de 50 millions de personnes forcées de travailler ou de se marier l'an dernier, a annoncé l'ONU. C'est près d'une personne sur 150 sur la planète. L'an dernier, 10 millions de personnes supplémentaires se trouvaient en situation d'esclavage moderne par rapport aux estimations mondiales de 2016. Selon le dernier rapport rendu public par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation internationale pour les migrations, avec l'ONG Walk Free Foundation. Sur les 50 millions d'esclaves modernes, près de 27,6 millions étaient des personnes soumises au travail forcé et 22 millions étaient des personnes mariées contre leur gré. Mais la COVID-19 n'explique pas tout. Ces dernières années, la multiplication des conflits armés et les changements climatiques ont contribué à accroître le risque d'esclavage moderne en occasionnant des perturbations sans précédent en matière d'emploi et d'éducation, en aggravant l'extrême pauvreté, en multipliant les migrations forcées et en faisant exploser les cas de violence fondés sur le genre. Les femmes et les filles représentent au total 54% des cas d'esclavage moderne. Près d'un travailleur forcé sur 8 est un enfant et plus de la moitié d'entre eux sont victimes d'une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les travailleurs migrants sont quant à eux au moins 3 fois plus susceptibles d'être soumis au travail forcé que les adultes non migrants, on s'en doute. L'esclavage moderne est présent dans presque tous les pays du monde. Les données qui m'ont surpris, plus de la moitié, 52% de tous les cas de travail forcé et un quart de tous les mariages forcés se trouvent dans les pays à revenus supérieurs ou élevés. Quand même. Ben là-dedans, on compte peut-être maintenant...
Peut-être le Brésil, peut-être la Russie.
Exactement, exactement, c'est ça. Puis, ben, ici, dans les pays occidentaux aussi.
Ouais. Ben non, mais peut-être aussi des cas comme le Qatar ou tout ça. On a déjà parlé des chantiers de construction, des
La Chine
des
est peut-être considérée aussi.
Soccer,
ouais.
Par exemple.
Ouais, exactement.
Ben, des pays qui ont des gros, gros PIB, sans nécessairement que la population soit riche.
Oui, c'est ça.
Exactement. Fait qu'en terminant, ben, rapporté à la taille de la population, c'est dans les pays arabes que le travail forcé est le plus important. En chiffre absolu, l'Asie et le Pacifique abritent plus de la moitié du nombre total des travailleurs forcés. Le rapport souligne en particulier que divers organes de l'ONU ont fait état de préoccupations concernant le travail forcé en Chine, dont dans le Xinjiang, donc avec le rapport de l'ONU qui est finalement sorti avant le départ de Bachelet il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est des chiffres, mais qui sont assez inquiétants, qui ont passé un peu inaperçus d'ailleurs aussi, là, mais voilà. Donc je voulais vous en parler.
Parce que quoi, il y avait un rapport qui est sorti récemment, c'est
ça? Il y a la semaine passée.
Ah, okay,
c'est pour les chiffres de 2021, c'est ça, okay. Exactement. Oui. On va y aller en musique avec une première pièce. On a failli la faire jouer la semaine passée, mais finalement, on avait eu un petit problème technique. Le groupe s'appelle The Bongo Up. La pièce s'appelle Cloud. C'est un groupe originaire de Lyon, en France. L'ANAPA, leur dernier album, est sorti en mai dernier. C'est leur troisième. Et c'est une formation aux influences afro-caribéennes où les cuivres sont à l'honneur. Donc, on y va avec The Bongo Up. Toujours aux Apatrides, deux anonymes, c'était le groupe de Bongo Up avec la pièce Clouds. Je passe la parole à... Ben, on va se parler ensemble, là, à Simon, pour les... Vas-y, ton bloc Élections Québec, 3 octobre.
Ben, élection, ben, tu veux parler, je peux te laisser parler si tu veux.
Non, je vais parler du M dans quelques minutes, t'inquiète
bon,
pas.
Bon, ben, ça tombe bien, j'avais préparé quand même un petit texte, là.
Ben oui, ben oui.
Donc, grande première, je vous l'annonce, il y a des élections qui s'en viennent au Québec le 3 octobre, je crois. Donc, je vais vous parler des différentes plateformes des partis, non seulement sur l'immigration, mais sur les enjeux autochtones aussi. Mm-hmm. Je vais commencer avec ça.
Oui.
Immédiatement, donc, je sais pas s'il y en a qui ont vu le débat télévisé de la semaine dernière. Le Legault se faisait questionner sur le principe de Joyce, que Legault a interdit à ses députés et ministres d'appuyer ou même de nommer. De nommer, je crois pas. On a le droit de le dire, mais...
Ouais, c'est ambigu, juste la Lafrenière.
Oui, puis en huis clos, ça. Ouais. Fait que, ben, ça se faisait questionner sur l'hôpital de Joliette où a été tué Joyce Echaquan, et on l'a vu, il a dit, le problème, c'est réglé. Il y en a plus de problème, c'est fini, ça. Puis savez-vous pourquoi il y en a plus de problème? Je peux interpeller Marie-Ève aussi.
Ouais, mais là, Simon, dis-nous là.
Pourquoi, Simon?
Parce qu'il y a eu une formation.
Qui est ça, l'hôpital?
Le personnel hospitalier.
Okay, okay. Oui, c'est une formation.
Donc, sur les réalités culturelles autochtones. Donc, ça a été donné.
Ça change tout.
Ben, ça change tout. Ben, c'est magique. Un tutoriel, puis le problème est réglé.
Ben oui.
Donc, avec le pouvoir des tutoriels, je pense que j'en ferai un aussi sur le climat et sur la crise du logement, puis ça réglerait tout.
Ben oui, t'as raison.
Mais il n'y a pas de crise du logement, c'est ça?
Non, on n'est pas de crise climatique, non.
Bref, j'ai essayé de pas trop me pencher sur le bilan plutôt médiocre des 4 dernières années. Je vais focusser sur les promesses à venir des principaux partis.
Okay.
Je sais pas si les belles promesses vont réussir à faire augmenter le taux de participation des Autochtones aux élections provinciales, qui était de 12% en 2018, versus 66% dans la population générale. Donc, il y a peut-être un certain désabusement du côté des communautés autochtones, de ne pas se sentir vraiment concerné ou écouté. Il y a un article paru dans Le Devoir qui s'intitule « Pourquoi les communautés autochtones votent-elles peu aux élections provinciales? » Ça remet un peu dans un contexte beaucoup plus large, pas juste des 4 dernières années, contexte historique, contexte démographique, etc. Donc, je recommande la lecture. Avec un slogan de la CAQ qui est « Continuons », je ne suis pas sûr que ça va beaucoup changer la situation.
Continuons le combat. Hein?
Continuons, point. Continuons d'être la CAQ. Donc, aussi peut-être le fait que cette année, il y a quand même un record de candidatures issues des communautés autochtones et inuites avec un gros 9 ou 10, je pense qu'il y en a un 10 qui s'est ajouté. La moitié chez Québec solidaire, mais peut-être ça va stimuler un peu la participation, donc à voir le 3 octobre. À voir aussi s'il y aura un ou une première élue autochtone à l'Assemblée nationale, parce que dans l'histoire du Québec, il y en a eu 0.
Il y en a eu un.
Il y en a eu un?
Un petit Parti québécois il y a une dizaine d'années, oui.
Ah, OK.
D'un Abitibi.
Il y avait des erreurs dans les textes que j'ai lus.
Mais le devoir, je te dis.
Pas lourd de la politique provinciale. Donc, même la CAQ a cédé au wokisme et a sa candidate autochtone. Une seule candidature, j'imagine qu'ils se sont dit « c'est assez comme
c'est
ça ».
C'est assez, là, oui.
Mais si elle est élue, on pourra peut-être enlever à Lafrenière le ministère des Affaires autochtones et le donner à Catherine Champagne-Jourdain. Elle se présente dans Duplessis, une dame très ouverte au projet de barrage hydroélectrique qui pourrait même servir de caution autochtone au futur gouvernement caquiste pour toutes sortes de projets de développement dans le Nord, même si ces projets-là sont loin de faire l'unanimité dans les communautés locales. Et ça implique souvent de harnacher les dernières grandes rivières sauvages, non seulement de la Côte-Nord, mais du Québec aussi. Trois projets sont actuellement à l'étude par Hydro-Québec, avec la bénédiction de la CAQ, qui s'alive à l'idée de vendre encore plus de surplus d'électricité aux États-Unis, surplus qu'on n'arrive d'ailleurs pas à écouler pour l'instant.
Ben non.
Il y a même un projet de barrage sur la rivière Magpie qui bénéficie pourtant d'un statut de protection très élevé, un statut juridique assez
particulier. On en avait parlé à l'émission, là. Ouais.
On en avait parlé. C'était le résultat de longues années de lutte militante à la fois par des environnementalistes blancs et autochtones. Sinon, à part les projets de barrage portés par la CAQ et repris par le Parti libéral, au niveau ressources naturelles, les autres partis ont quelques propositions. Québec solidaire veut développer, en collaboration avec les communautés, un plan de résilience en lien avec les changements climatiques, dont les effets, ben, plus on est au nord, plus ils se font sentir de manière assez dramatique. Donc, idée intéressante qui n'est pas très détaillée, mais qui est à suivre. Le Parti conservateur, tu vas nous parler de M. Duhaime tantôt, dit vouloir une acceptabilité sociale autochtone dans les projets qui concernent les ressources naturelles et veut des meilleures redevances minières. Donc, jusqu'à date, ça va bien.
Oui.
On est tous d'accord avec ça.
Oui,
mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de précision ou c'est pas vraiment chiffré non plus. Et en même temps, il veut relancer GNL Québec. Donc, je ne sais pas comment il va patenter son acceptabilité sociale autochtone ou même non autochtone dans ce dossier-là.
Oui.
En santé maintenant, je vous disais, le principe de Joyce est tabou chez les caquistes parce que c'est plus nécessaire, tout a été réglé. Mais comme pour les libéraux, on s'engage à mettre en application les recommandations de la commission Laurent qui concerne les enfants autochtones. Donc ça, la CAQ s'est engagée à ça. Quoi qu'il y aurait pu déjà...
Ils contestent quand même la protection de la jeunesse, la nouvelle loi fédérale. Là,
c'est ça. Et puis, ouais. Certains, ils sont pas d'accord sur certains aspects. Mais bref. Parti libéral, Québec solidaire veulent faire adopter officiellement le principe de Joyce. Donc, c'est un engagement qui a été pris. Le PQ ne nomme pas le principe de Joyce, mais dit vouloir appliquer au système de santé le principe de sécurisation culturelle. Je sais pas pourquoi on refuse de nommer le principe de Joyce. C'est presque un synonyme. Donc, peut-être trop choquant pour la base péquiste.
Péquiste, ouais.
Sur la question de l'autodétermination, le Parti libéral veut appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Québec solidaire, la même chose, appliquer la Déclaration des Nations Unies, mais avec remise partielle de pouvoir aux communautés locales sur certains services publics, notamment en santé, en éducation. Promesse intéressante, mais qui n'est pas non plus très détaillée. Les programmes sont souvent très généraux, donc c'est beau lancer des principes comme ça, mais encore le diable est dans les détails, comme dirait Paul Oud, justement. Parti québécois veut aussi signer la Déclaration des Nations Unies, mais ce serait conditionnel à un Québec indépendant. Donc c'est une bonne façon d'aller chercher des appuis pour un futur
pour
référendum.
C'est
ça. Et PPPS là, veut mettre en place une commission spécial sur les relations avec les Autochtones, un genre de grande réactualisation des accords et traités. C'est pas très précis non plus. C'est pas une idée qui est nécessairement mauvaise en soi. Donc, saluons les bonnes idées. les conservateurs, rien du tout au niveau de l'autodétermination et le pouvoir des nations autochtones dans sa plateforme. Au point de vue des langues, on sait que la CAQ a complètement ignoré les langues autochtones dans son projet de loi 96. Donc, là, actuellement, il y a des promesses de valorisation des langues autochtones, mais on n'y croit pas trop, disons. Québec solidaire, un peu plus précis, donc veut protéger les langues autochtones en finançant l'enseignement des langues traditionnelles. Parti québécois permet aux... très, très, très niché, vous allez voir, permet aux Premières Nations l'utilisation de caractères propres à leur langue, aux langues autochtones, dans les communications avec l'État québécois. Donc, on est vraiment dans le point-virgule, là, je dirais.
Oui, oui.
Les conservateurs, rien au niveau des langues. Donc, ça va vite avec les conservateurs.
Ben oui.
Donne pas trop de travail. Justice. À peu près tout le monde dit vouloir mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vien et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les libéraux promettent en plus un plan d'action contre le racisme systémique et le profilage racial. Donc, on nomme les choses.
Ben
Madame Anglade,
ben oui.
Elle nomme les affaires.
Déchaînée.
Je l'imaginais déchaîné mentalement. Donc, les libéraux parlent aussi de la question de l'accessibilité à la justice dans le nord du Québec, un enjeu quand même important, et souhaitent tenir une enquête publique sur les pensionnats. Donc,
au Québec.
Oui, donc quand même assez substantiel sur la question de justice dans les communautés autochtones. Chez Québec solidaire, on a un peu de tout ça et on souhaite réduire la judiciarisation chez les personnes autochtones. Lutter contre le profilage racial en modifiant les techniques, les méthodes policières. Donc, bonne chance. Et on le voit, c'est très difficile.
À Montréal, c'est très facile, hein? Oui, oui.
Oui, à Repentigny, tu vas nous parler
au Saguenay,
de Saguenay,
tantôt.
Aussi,
oui, oui,
donc,
oui.
La CAQ, ben, on le sait, refuse de reconnaître l'existence du racisme systémique. Même chose pour le PQ, qui lui aussi va d'un genre de glissement. Il parle de racisme institutionnel.
Oui, oui, je l'ai déjà entendu.
En refusant de nommer le racisme systémique, un peu comme il refuse de nommer le principe de Joyce. Je comprends pas la stratégie. J'imagine que c'est des questions...
c'est juste la stratégie,
de communication, là, c'est ça. Et finalement, la question du logement, qui est un enjeu qui touche les populations autochtones de manière assez... un peu comme tout le
monde. Frontal,
assez frontal.
Assez frontal.
Dans le nord, comme en ville, en région, un peu partout. Donc, la CAQ promet d'investir dans le logement pour les populations autochtones en milieu urbain.
OK.
Même chose chez Québec solidaire, qui veut aussi des mesures spécifiques pour le nord. C'est un peu mince pour la CAQ et pour QS, mais les trois autres partis n'abordent pas du tout la question. Donc, les libéraux, que je disais substantiels tantôt sur cet aspect très important-là, disons qu'il y a une grosse faille. Enjeux d'immigration, est-ce que j'ai le temps? Là, j'ai passé à travers les enjeux autochtones.
Ben, écoute, commence, puis... Ou on va te dire, mettons 2 minutes, là, ouais.
OK,
ouais.
Bon. On répète pas mal la même chose depuis des années. Beaucoup veulent baisser les seuils d'immigration parce que la langue et la culture seraient menacées au Québec. Donc, il faudrait mieux adapter aux besoins en emploi, avoir une immigration qui parle français, mais qui porte pas de foulard, évidemment. Mm-hmm. Sur les objectifs annuels, la CAQ veut maintenir le chiffre actuel de 50 000 immigrants reçus par année au Québec. Les autres partis veulent augmenter deux autres partis, 70 000 pour le PLQ, 80 000 pour Québec solidaire. Le Parti québécois, lui, est vraiment le plus anti-immigration. Il veut revenir au chiffre de 1990, soit 35 000, une baisse assez radicale de 30 %. Mm-hmm. C'est drôle d'ailleurs voir Paul Saint-Pierre Plamondon avant de mentionner ces chiffres-là, il fait toujours un genre de contorsion. Je suis pas raciste, mais bien senti. Là, j'en ai répété. C'est pas contre les individus, c'est un genre d'affaire comme ça. Là.
Mm-hmm. Tu le fais bien.
Mm-hmm. Oui, j'ai pas pratiqué mon timbre, là, mais enfin. Monsieur Plamondon, c'est qui a sorti un drôle de lapin de son chapeau. Il a décidé que l'immigration, ça accroît les pénuries de main-d'œuvre.
Oui,
donc,
on entend ça.
Une
ouais.
théorie exclusive au Parti québécois. Merci aux stratèges.
Un scoop.
Il veut aussi ce PSPP que tous les immigrants économiques connaissent le français avant leur arrivée au Québec. Il veut ainsi éviter la ghettoisation de Montréal. Donc, c'est le genre d'utilisation de mots que je pense qu'il faut faire attention, mais en tout cas, dire des niaiseries sur Montréal, c'est toujours payant électoralement.
Oui, c'est clair.
Mon Dieu, je sens le sablier, le sable.
Vas-y, Simon, il te reste une grosse minute.
OK, Legault aussi fait un genre de magnifique triple salto en affirmant qu'il n'y a pas assez de logements pour tous les immigrants, alors que ça fait 4 ans qu'il nous dit qu'il n'y a pas de crise de logement, mais
c'est bon, ça.
De la cohérence. Hein. Sinon, CAQ, Parti québécois, parle beaucoup de régionalisation de l'immigration. Ça, on entend ça beaucoup plus qu'avant, avec des incitatifs financiers pour les personnes immigrantes qui choisiraient de s'installer ailleurs que dans les grandes villes. Donc, Québec solidaire embarque aussi dans le train de cette régionalisation et en parle. Anglade aussi parle de régionalisation. Elle baisserait le niveau de connaissance requis du français parce qu'elle dit que la francisation se fait plus rapidement en région et que se ferait automatiquement. Il y a quand même des régions anglophones au
Québec.
Très bilingues au Québec. On a tendance à l'oublier. Le programme du Parti libéral prévoit aussi de consulter les différentes régions pour qu'elles expriment leurs besoins en matière d'immigration. Donc, ce serait consultatif et non décisionnel, évidemment. Ce serait l'État québécois qui aurait le dernier mot. Éric Duhaime et le reste de son parti, qui est plutôt absent, là, donc c'est un peu un one-man show. Bref, Duhaime, pour l'instant, il garderait les seuils à 50 000, mais il ajoute, il faut que ces gens-là travaillent.
Ouais, oui.
Comme si les immigrants n'étaient pas déjà ceux qui travaillaient pas mal le plus fort et dans les conditions les plus pénibles au Québec. Québec solidaire, il va avec un gros 80 000 immigrants par année, ce qui fait pas mal peur aux partis plus identitaires qui brandissent les menaces à la culture, à la langue et à nos belles valeurs. Mais c'est ça, Québec solidaire mettrait beaucoup plus d'argent en francisation et ferait en sorte, je sais pas comment, mais de ramener la francisation directement en milieu de travail le plus possible. Dominique Anglade, encore une fois...
Ben, rapidement, Simon, on va terminer.
C'est pas gêné pour dire que François Legault fait de la politique de la peur sur le dos des immigrants, qu'elle trouve ça mesquin et minable textuellement.
Oui, donc, ça, on l'a bien entendu. Hey, on va se laisser sur cette belle déclaration.
On va se laisser. Il me reste un petit bout que je garde pour le dessert, peut-être.
Oui, tantôt, si on a le temps. On va écouter. Merci, Simon. On va écouter quelques notes de musique, puis je vous parle du PCQ Éric Duhaime, mais avec une autre approche. Je voulais surtout vous mentionner que le média en ligne pivot.québec, là, si vous voulez le trouver sur Internet, qu'on aime bien, on aime ça vous en parler ici à l'émission. Ils ont sorti un dossier le 3 septembre sur le PCQ, sur Éric Duhaime et ses origines, un peu, et tout ce qui a trait aux enjeux libertariens, disons, d'où ça vient, tout ça. Donc, c'est 3 articles que vous pouvez trouver sur pivot.québec. Le premier, c'est Duhaime, le libertarien du réseau Liberté Québec au PCQ. Je vais vous lire quelques extraits des articles. Le chef du Parti conservateur est une figure centrale du libertarianisme québécois. Petit plongeon dans l'univers des radicaux du libre-marché. Donc, le PCQ est à bien des égards la nouvelle mouture du défunt réseau Liberté Québec, cofondé par Éric Duhaime il y a une décennie. Il a été fondé en 2010, ce réseau, dans le but de favoriser le réseautage de tous les Québécois qui partagent des idéaux de liberté et de responsabilité individuelle. L'objectif était de mobiliser toutes les forces réformatrices situées à droite de l'échiquier politique au sein sein d'un mouvement de masse. Vous allez voir, c'est assez comique pour la suite. Les membres fondateurs s'entendaient pour que ce réseau ne fasse pas la promotion des idées de la droite sociale, morale ou religieuse. Toutefois, le clou final du circuit en 2012, ça a été l'élection du Parti québécois et la Charte des valeurs. Une bonne proportion des membres du RLQ deviennent jour au lendemain des gens pour qui la droite identitaire était devenue la priorité. Mm-hmm. Évidemment, il y a le rôle de l'Institut économique de Montréal là-dedans, qu'on peut autant dans le RLQ que dans le Parti conservateur du Québec. Les idées comme la privatisation de la SAC, l'augmentation du privé en santé, ça vient entre autres de là.
Salaire minimum, abolition.
Pas de salaire minimum, des choses comme ça, exactement. Le deuxième article, c'est de la plateforme du RLQ à celle du PCQ, puis il y a vraiment des points communs assez frappants. On parle toujours du modèle québécois, diminution de la taille de l'État, mise au pas des mouvements syndicaux et étudiants, quand on prend à la fois les idées à l'époque du RLQ, les idées, les propositions, et la plateforme du PCQ. On dit évidemment que pour libérer l'énergie créatrice et entrepreneuriale des Québécois, il faut couper drastiquement dans la réglementation et la paperasserie. On a beaucoup entendu ça. Que le Québec se distingue par sa lourdeur et sa propension à choisir les gagnants et les perdants à l'aide de subventions et de programmes gouvernementaux coûteux et peu efficaces. Mmh. On se dit favorable à la protection de l'environnement, mais on veut absolument développer les hydrocarbures et les mines. En santé, ben évidemment, le privé qui est de plus en plus là, réduire le panier de services couvert par la RAMQ, ça, ce qu'on n'a pas entendu beaucoup, mais c'est là. On souhaite des hôpitaux privés, financés à la fois par le public, mais par des assurances, et on veut libérer les directions d'établissement des conventions collectives. Introduire le financement à l'activité des établissements afin de favoriser la concurrence entre les centres hospitaliers, évidemment. Les associations étudiantes sont dans la mire du PCQ, on est dans une université ici. Le parti s'engage donc à revoir la loi 32 sur l'accréditation et le financement de celle-ci. On veut entre autres limiter la capacité des assos de subventionner des causes externes à la vie étudiante. Le RLQ, à l'époque, réclamait une révision du rôle du financement et du pouvoir des syndicats au Québec. Le Parti conservateur, dont le chef actuel a écrit le livre « Libérez-nous des syndicats », hein, Éric Duhaime, ne mentionne pas les mots « convention collective » ou « syndicat » dans sa plateforme, par hasard. Côté logement, ben, le RLQ, à l'époque, demandait l'abolition de la régie du logement, hein, pour rétablir les règles naturelles du marché dans le domaine de l'immeuble locatif et le respect réel du droit à la propriété privée. Le Parti conservateur propose de... C'est semblable de déréglementer le coût des loyers pour les loyers élevés et ceux ayant été rénovés. Il prévoit également revoir la façon dont sont déterminées les normes encadrant les hausses de loyers. Et le troisième article, ça s'appelle « L'étrange liberté des libertariens ». On dit le concept de liberté prôné actuellement par la droite n'est qu'une vision bien limitée de ce concept selon ses critiques. Évidemment, cette philosophie, cette idéologie qui met l'emphase sur la liberté individuelle et la méfiance envers l'État est inspiré de certains penseurs comme Frédéric Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick, des gens que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être lu. Il y a plusieurs familles dans cette... Il y a plusieurs écoles dans cette famille, des gens plus modérés qui veulent privatiser certains services publics, aux anarcho-capitalistes qui proposent de privatiser l'armée et la police. Celle du PLQ, ben, c'est la liberté conservatrice, donc à l'anglo-saxonne, où l'individu est souverain, un individualisme donc complet. Pour ces gens-là, le changement social ne doit découler que des actions individuelles et non d'un effort planifié. Évidemment, c'est la foi absolue dans le marché, sans entrave, pour répondre aux besoins de tout le monde, comme par magie. c'est toujours drôle de lire ça. Donc, cette définition de la liberté est très séduisante, car on n'a pas besoin de lui donner une forme précise. Tu peux juste nommer ce qui l'empêche, et c'est un idéal, donc, qui est négatif. C'est pas des anarchistes, ils visent pas l'abolition de l'État. Ils veulent l'État pour la partie répressive et pour la compétition internationale. Et on, les critiques dans cet article-là disent que la liberté chez les libertariens, c'est affreusement vide comme concept et qu'on peut même dire que l'apogée de cette idéologie-là appliquée dans l'histoire récente, ça a été la dictature de Pinochet au Chili, qui est vraiment un capitaliste sauvage, sans entrave, avec une répression très forte de l'État. Donc, on dit que cette vision de l'économie s'accommode totalement de la dictature. Donc, pensez-y avant d'aller vous promener dans 10 jours autour des bureaux de vote.
Ouais, ou juste dire, il est pas si pire que ça. Hein.
Comment?
Ou juste dire qu'il est pas si pire que ça. Son parti avec le Réseau Liberté.
Ah oui, par rapport au Réseau Liberté Québec et PCQ, que c'était ça ma démonstration, il y a des liens assez importants. Donc, on va passer en musique après tout ce contenu très exigeant et très volumineux. On va donc y aller avec Yoko Feu, l'album Apothéose, la pièce Apothéose 3, tirée de l'album Apothéose, sorti en octobre 2021. C'est un groupe indie, psychédélique, prog, franco de Montréal. C'est un quintet. J'ai pas de spectacle à vous annoncer, mais c'est une longue pièce de à peu près 8 minutes. Appréciez-la, elle est très bonne. Yoko Feu, Apothéose 3. C'était le groupe Yoko Feu de Montréal avec la pièce Apothéose 3. Donc, Simon, Amérique latine, qu'est-ce qui se passe?
Ben oui, encore moins. Ben, il se passe, évidemment, il fallait faire des choix. Là. Je parle seulement de un peu de Brésil, Colombie et je vais commencer avec le Mexique.
Vas-y, je t'écoute.
On parle pas de caravane de personnes migrantes. Je sais qu'il y en a encore. Il y en a probablement de manière perpétuelle là, qui traversent le Mexique pour aller rejoindre la frontière américaine. Mais je vais vous parler de déplacés internes au Mexique. Phénomène dont on se doute qu'il existe là, dans ce pays quand même turbulent. Disons ça comme ça.
Comme ça, ouais.
Mais c'est un phénomène qui est peu documenté. Fait que là, il y a une rapporteure spéciale de l'ONU, Cecilia Jiménez Damari, qui a fait l'exercice de chiffrer le phénomène des réfugiés mexicains à l'intérieur de leur du territoire mexicain. Le gouvernement mexicain n'a pas de statistiques fiables sur le sujet, donc Madame Jiménez Damari s'est appuyée sur des données alternatives fournies par des ONG, des chercheurs et les différentes les personnes qui sont placées, qui sont sur place. Donc, pour un pays, elle arrive à une estimation entre 350 et 400 000 déplacés internes au Mexique pour une population totale de 126 millions et c'est une estimation qui est jugée conservatrice quand même,
okay.
Mais fiable. Dans le rapport, on souligne aussi la grande proportion par rapport à la population générale de personnes autochtones qui sont représentées dans le nombre de 350 000 ou 400 000. Je disais que la violence en général est responsable de ces déplacements-là, mais dans le rapport de l'ONU, on est un peu plus précis. On identifie trois facteurs principaux qui font fuir les gens de leur maison. Premièrement, l'exploitation minière et forestière illégale. Personnellement, je rajouterais aussi légal parce que c'est aussi un facteur de délocalisation, mais peut-être que c'est pas comptabilisé. Je sais pas comment on a procédé exactement. Deuxième facteur, les conflits locaux qui le plus souvent seraient électoraux, religieux ou agraires. Et troisièmement, la criminalité. Donc ça, c'est très large, là. Les menaces, la corruption, l'impunité. Par exemple, beaucoup d'enquêtes, même pour des homicides, sont même pas tenues, là, même pas entamées. Alors, énormément de criminels et d'assassins sont en liberté, ce qui fait fuir beaucoup de gens de leur région parce qu'ils ont peur, forcément.
Ben oui.
À titre d'exemple, l'affaire des 43 étudiants disparus et assassinés à Iguala illustre vraiment très bien ce climat de justice complètement défaillante au Mexique. 8 ans plus tard, ça fait déjà 8 ans, l'affaire est même pas réglée. Le fédéral vient de reconnaître qu'il s'agit d'un crime d'État. Puisqu'à tous les paliers de gouvernement, on était au courant de ce qui se passait, et non seulement on n'a rien fait pour empêcher le massacre, mais en plus, l'affaire a été couverte au plus haut niveau. On a fait obstruction à la justice, la police est directement impliquée, mais dans la main, tout ça, on le sait déjà, mais ça a été officiellement reconnu. Donc, police avec alliée aux cartels locaux pour faire disparaître les étudiants. Et aujourd'hui, il y a à peu près rien qui a changé dans les mécanismes d'enquête ou de livraison de la justice en général au Mexique, ou même de protection de la personne. Donc, c'est en gros les conclusions du rapport tout récent de la Commission pour la vérité et l'accès à la justice dans l'affaire qu'on a appelée l'affaire Ayotzinapa, du nom de l'école d'où venaient les 43 étudiants assassinés. En fait, assassiné, c'est même pas prouvé, mais...
Disparu,
c'est ça.
Ouais.
Donc, nouvelle un peu plus réjouissante, on s'en va en Colombie où la prochaine représentante du pays aux Nations Unies est une militante autochtone. Et ça, c'est une grande première. Beaucoup de premières en Colombie, c'est
ainsi. Ah oui, ça bouge, hein?
Elle s'appelle Leonor Salapata. Elle vient du nord du pays, de la région de la Sierra Nevada de Santa Marta, région très convoitée par les minières et autres extractivistes, région qui est considérée aussi comme sacrée par les communautés autochtones qui l'habitent depuis des milliers d'années. Madame Salapata, elle s'est battue toute sa vie contre les multinationales, mais aussi contre le clergé et le gouvernement colombien, qui, un peu comme ici au Canada, ont mené un génocide culturel contre les peuples autochtones en les déplaçant, en volant leurs terres, en détruisant leurs villages, en empêchant de pratiquer les coutumes, les religions, de parler les langues. Elle avait participé, entre autres, à la rédaction de la Constitution colombienne de 1991 qui redonnait pas mal de droits aux communautés autochtones en Colombie. L'un de ses objectifs à l'ONU est de mettre sur pied une convention mondiale des peuples autochtones. Donc, retenez ce nom si vous ne le connaissez pas déjà. Leonor Salapata, elle a l'intention de faire bouger les choses.
OK.
Dernière brève latino-américaine au Brésil. Le dernier survivant de la tribu Tanaru a été retrouvé mort le 23 août dernier. Semble-t-il de mort naturelle. Il était surnommé l'homme du trou en raison des abris et des pièges qu'il construisait. Il vivait seul depuis au moins 20 ans. Il avait survécu à plusieurs massacres contre sa communauté par des spéculateurs agricoles et forestiers en Amazonie. Il était connu du public, notamment à cause de documentaires qui ont été tournés dans la région. une région qui est proche de la frontière bolivienne. Il était perçu un peu comme le symbole de la lutte autochtone contre la déforestation et l'exploitation minière de l'Amazonie. Il était résolu à vivre isolé et refusait toutes les tentatives d'approche qui ont été essayées. Il y aurait encore, comme cet homme, l'homme dit du trou, des dizaines, voire des centaines de groupes et d'individus qui vivent complètement isolés de manière autonome en Amazonie. Plusieurs ONG ont profité de cette nouvelle, de ce décès, pour nous rappeler l'importance de la préservation des milieux et écosystèmes pour le maintien des communautés. Donc, il y a un momentum, c'est la campagne électorale au Brésil.
Mm-hmm.
D'ailleurs, c'est le premier tour des élections présidentielles le 2 octobre prochain.
Ouais.
Donc, deuxième tour sera le 30 octobre. Je suppose qu'on aura les résultats finaux dès le 2 octobre. Ça reste à voir. On va vous en reparler. Donc, est-ce que ce sera le retour de Lula et la fin de Jair Bolsonaro, qui est considéré comme un des présidents brésiliens ayant le plus mis à mal les communautés autochtones et leurs milieux et leurs environnements un peu partout au pays, mais surtout en Amazonie, avec des politiques pratiquement de terre brûlée, carte blanche aux compagnies locales et multinationales pour faire table rase, construire des routes, couper des arbres, assécher les milieux humides, pour faire des terres destinées principalement, je crois, à l'élevage extensif du bétail, qui est extrêmement polluant aussi.
Tout à fait.
Donc, pour une rare fois, Bolsonaro a choisi de se la fermer et n'a pas commenté la mort de l'homme dit du trou.
Bravo!
Voilà pour nos brèves latino-américaines.
Merci, Simon. On va justement entendre une pièce qui va faire plaisir à Bolsonaro. La pièce s'appelle Baby, I had an abortion.
Oh.
Le groupe s'appelle Petrol Girls et je vous en parle après la pièce qui suit.
Mother, God, it wants to last my purpose. I'm a goddamn.
les Petrol Girls, la pièce Baby, I Had an Abortion, l'aviez compris. L'album Baby, sorti en juin dernier. C'est un groupe originaire de Grasse en Autriche, maintenant établi à Londres, actif depuis 2012, mais on ne connaissait pas du tout. Punk hardcore, Riot Girl, Queer et compagnie, vous pouvez deviner le style. Est en première position du palmarès Brutal, la semaine dernière sur les ondes de choc, mais là, il est disparu.
Le palmarès?
Le groupe est disparu du palmarès et leur nom est inspiré des pétroleuses de la commune de Paris, évidemment. Donc voilà pour cet excellent groupe. On va y aller avec l'agenda antiraciste. Avant d'annoncer des événements ou des lancements. Oui, Marie-Ève?
Moi, je veux mon jingle de casserole.
Oh, OK, excuse-moi, on y va. Je pensais qu'il était après.
Non.
On y va. Ben, ça fait suite à la pièce qu'on a entendue. Ça fait longtemps que j'avais trop parlé depuis 30 secondes, c'est vrai. Donc, agenda. Donc, petit retour sur la journée pan-canadienne de mobilisation pour un statut pour tous et tous, sans exception, qui avait lieu dimanche dernier, 18 septembre. Un peu partout au Canada, mais à Montréal entre autres. À Montréal, ça a été une belle manifestation, malgré la pluie battante. La pluie tombante, oui, la pluie battante. Il y a eu 300-400 personnes facilement, beaucoup d'animation, beaucoup de bannières, beaucoup de... Webster qui a fait des pièces en direct, beaucoup de communautés différentes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc, belle ambiance. J'ai vu des photos partout au Canada, ça va l'air intéressant et dynamique aussi. Donc, c'est le nouveau début de la mobilisation pour le fameux programme de régularisation dont on parlait avec notre invité il y a deux semaines à Diana de SSF. Donc, très belle manif. Malgré la pluie, il n'y aurait pas plus de monde. Mais c'était très agréable. Et Simon, tu voulais rajouter un petit quelque chose par rapport à ton bloc tantôt sur les élections?
Ben, tu viens de dire le programme de régularisation, qui est un projet quand même assez nébuleux pour l'instant d'Ottawa. Il n'y a pas grand-chose qui a filtré, mais ça permettrait d'octroyer, si ça se concrétise, la résidence permanente à 500 000 personnes sans papier environ. Mm-hmm. Et on rajouterait à ça 1,2 million de travailleurs et étudiants, migrants et peut-être demandeurs de statut de réfugié. Donc, ça pourrait toucher jusqu'à 1,7 million de personnes. Et une des revendications de SSF et de toute la coalition qui était derrière la marche, c'était d'interpeller les partis provinciaux pour qu'ils se prononcent là-dessus. Et je crois pas qu'il y ait eu qu'on soit beaucoup prononcé là-dessus.
Je peux dire qu'à la manif dimanche, il y avait des candidats de Québec solidaire. C'est à peu près tout ce que j'ai vu.
Ouais, pour ce qui est du Québec, là. On peut considérer ça comme un appui.
Ouais.
Puis sinon, comme beaucoup d'autres sujets qui ont été occultés, là, les regroupements familiaux, les conditions de travail, les travailleurs temporaires, etc., dont on parle pas du tout dans la campagne actuelle.
Non, à part les seuils, il y a pas grand-chose, non, tout à fait.
C'est ça.
Et sinon, à l'agenda, ben demain, 23 septembre, c'est la grève mondiale pour la justice climatique. Des manifs partout dans le monde à l'appel du mouvement Fridays for Future. À Montréal, c'est à 13h au Parc du Mont-Royal, organisé par des assos étudiantes, des syndicats et des groupes communautaires, donc tout ce que Éric Duhaime va éliminer dans quelques semaines. Deux revendications au Québec et au Canada, je pense. Une sortie complète des énergies fossiles d'ici 2030 et une taxation massive de la richesse et un réinvestissement dans les programmes et les services publics et programmes sociaux. Il y a des manifs partout au Québec là demain, même à Grimby, dans des petites villes aussi. Sinon, après 2 ans d'absence, c'est le retour des traditionnels lancements de session de l'UPOP Montréal. Ça se passe le 28 septembre au Café du Théâtre aux Écuries. Toujours à Montréal, évidemment. Première demi-heure, les profs défileront tour à tour pour présenter brièvement chacun de leurs cours et donner un aperçu de leurs différentes séances. Et deuxième partie, c'est la projection du long métrage Humus de la réalisatrice Carole Poliquet. Donc, ça se passe tout ça. L'événement est gratuit. Les cours qui vont avoir lieu en personne dans les prochains mois vont être gratuits aussi. Donc, allez voir le site de l'UPOP Montréal. Ben, la Ligue des droits et libertés fête son 60e anniversaire à partir de la semaine prochaine. Lancement le 29 septembre de l'ouvrage collectif Les droits en mouvement, l'avenir des libertés à la librairie sur la rue Ontario à Montréal pour les gens qui connaissent cette belle nouvelle librairie. Ça, c'est le 29 septembre, c'est aux éditions Somme Toute. Le 13 octobre, dévoilement d'une murale financée par la Ligue au Parc René-Goupil dans Saint-Michel. 25 octobre, séminaire public, le droit à la santé nous échappe. 4 novembre, colloque en hommage à Lucie Lemonde, qui est décédée l'année passée, de l'Office des droits des détenus à aujourd'hui, perspective critique sur l'incarcération au Québec. Et en 2023, exposition à l'Écomusée du Fairmonde, numéro spécial de la revue Droits et Libertés. Donc, c'est le party à la Ligue des droits et libertés. L'équipe de relations nous convie au lancement de son numéro GAFAM, briser l'emprise, qui aura lieu à la librairie encore. le jeudi 6 octobre dès 17h30. Quelques thèmes dans la revue. Bienvenue au royaume du capital algorithmique. Résister au modèle Amazon, un texte de Mustapha Enaoui, évidemment. Freiner la boulimie numérique. La réglementation au Canada, toujours attendue. Taxation des multinationales, ce n'est pas assez. Donc, ça, c'est les thèmes qu'on retrouve dans la revue spéciale GAFAM. Et sinon, est-ce que j'ai un peu de temps, Marie-Ève, encore? Oui, ça va. Deux nouvelles de mes amis de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, que je suis beaucoup. Ils participent au lancement d'un nouveau livre intitulé « Advocating for Palestine in Canada ». C'est un livre qui rassemble des activistes et des universitaires pour parler des défis de l'activisme palestinien au Canada. Parmi les sujets traités, les défis de défendre la Palestine au Parlement du Canada, les similitudes entre les arguments d'Israël et ceux de l'apartheid en Afrique du Sud, l'opinion juive canadienne sur Israël, le colonialisme de peuplement, le racisme anti-palestinien, les liens entre le sionisme, le racisme et la blancheur juive européenne, la semaine contre l'apartheid israélien et les efforts des universités pour la réprimer sur les campus, et le parti pris pro-israélien dans les médias canadiens. C'est publié par Fernwood Publishing depuis quelques semaines. Et je termine avec toujours CGPMO, qui a publié un nouveau rapport démontrant que le vote du gouvernement Trudeau, qui est résolument pro-Israël aux Nations Unies, va à l'encontre des conseils des experts en politique étrangère du ministère, c'est-à-dire de Affaires mondiales Canada. À l'aide de documents obtenus par le biais d'une demande d'accès à l'information, le rapport montre que le vote pro-israélien du Canada à l'ONU est en contradiction avec ses propres valeurs et intérêts et nuit à sa réputation internationale. Le rapport s'appelle « Voter contre ses propres intérêts ». Et alors que l'Assemblée générale de l'ONU tient ses travaux actuellement, CGPMO exhorte le Canada à écouter ses experts et à commencer enfin à soutenir les résolutions qui visent à faire respecter les droits humains des Palestiniens. De 10 à 16 résolutions sur les droits des Palestiniens sont examinées chaque année par l'Assemblée générale. Bien qu'au début des années 2000, le Canada votait en faveur de la quasi-totalité d'entre elles, cette approche a radicalement changé sous Stephen Harper et se poursuit avec le gouvernement Trudeau. Donc, un rapport de CGPMO qui s'appelle « Voter contre ses propres intérêts ». Donc, voilà mes annonces et informations et événements. Donc,
intéressant.
Intéressant. Merci Simon. Je vais reparler dans le micro. On va y aller avec un petit marqueur, Marie-Ève. Oui, et ensuite...
J'apprécie beaucoup avoir le contrôle sur les pitons.
J'aime ça quand tu l'as, moi aussi.
Merci, Maria, pour ton beau travail. Je te remercie officiellement dans quelques secondes. Juste vous dire, ben oui, je vous ai promis de parler de la police de Saguenay.
Oui.
Le service de police de Saguenay, le SPS, a refusé d'embaucher des candidats expérimentés autochtones ou issus de minorités culturelles dans les dernières années. Et ce, même si le service fait mauvaise figure en matière d'inclusion et de diversité. Selon les données obtenues grâce à la loi sur l'accès à l'information par Radio-Canada, il n'y a pas d'Autochtones au sein de la police de Saguenay et on retrouve une seule personne issue d'une minorité visible sur les 238 policiers, soit 0,4% des effectifs.
Ah ben.
Parmi ces policiers qui ont postulé lors des dernières rondes d'embauche, certains étaient pourtant dans un corps policier autochtone ou à la Sûreté du Québec. Ils avaient aussi obtenu des recommandations internes et externes amplement. Et en plus, seulement 10 des 15 postes à pourvoir ont été pourvus au printemps dernier, donc puis ont refusé donc ces gens-là. On souligne que de plus en plus d'Autochtones et d'immigrants vivent à Saguenay, ce qui aurait dû rendre le profil de ces candidats très attrayant. Je cite un avocat, il semble y avoir une conjonction de faits précis, concordants et graves qui ont les apparences de discrimination à l'embauche. La direction du SPS a décliné les demandes d'entrevue. Le président de la commission des ressources humaines de la ville assure toutefois qu'il n'y a pas eu de discrimination, que c'était une question de compétence. Car les gens ne répondent pas aux critères qu'on a fixés, ils ne sont pas pris. C'est même que ça fonctionne, explique-t-il.
Dans les critères, il y avait s'appeler Tremblay, peut-être.
Oui, c'est ça. Et être né à Saguenay. Le service de police de Saguenay a mis en place un comité autochtone pour faire le pont avec la communauté en collaboration avec le centre MAMIC, qui est un centre d'amitié autochtone. Mais il n'y a pas de policiers autochtones sur le comité, il n'y a pas d'autochtones qui viennent de la ville non plus. Peut-être dire aussi que les policiers du SPS ne connaissent généralement pas le centre MAMIC et que l'organisme n'est pas tenu au courant des interventions policières dans les foyers autochtones. Il y a quand même 7000 personnes autochtones à Saguenay, c'est quand même pas mal. Mmh. En terminant, Radio-Canada a obtenu des infos sur le processus. Les candidats appelés à l'entrevue ont été questionnés à savoir savoir comment il réagirait s'il devait effectuer une intervention avec un collègue raciste auprès de minorités culturelles. Ça, c'est les gens qui ont eu des gens autochtones ou de communautés culturelles qui ont eu ces questions-là. Les candidats sont questionnés à savoir s'ils ont déjà été en contact avec des consommateurs de drogue ou en présence de drogue, s'ils ont participé à des bagarres. On rappelle que les policiers qui ont grandi dans une réserve autochtone ou encore dans un quartier défavorisé ont davantage baigné dans la violence et que leur proximité avec la criminalité doit être contextualisée. En terminant, on peut toujours dire que c'est la même règle qui s'applique à tout le monde, mais dans les faits, les gens qui sont qui viennent de minorités vulnérables vont être désavantagés dans des questions ou dans des tests polymétriques ou polygraphiques d'apparence neutre. C'est bien documenté que les résultats participent plutôt à créer de la discrimination indirecte ou systémique, soutient le même avocat dont je vous ai parlé tantôt, qui s'appelle Rémi Bourget. Donc, un autre dossier policier local qui fait pas mal dur, mesdames et messieurs.
C'est de la polymétrie systémique, toi?
Oui, exactement, Simon, tu as tout à fait raison. On va se quitter tranquillement là-dessus. Cette super émission donc du 22 septembre qui était en direct des studios à Choc. Pour nous écouter en tout temps, cette émission ou les autres, c'est sur notre page web sur le site de choc.ca. Nous avons un site internet apatridesanonymes.info, un courriel apatridesanonymes@resist.ca et une page FB où on met à jour toutes sortes d'articles, toutes sortes d'informations, les mobilisations aussi. Je remercie Marie-Ève à la mise en onde et quelques petits cris par-ci par-là.
Oui, c'est ça.
Elle avait la gorge affectée, c'est pour ça que...
Vous épargnez mes quennes de tout. Tes quennes de tout. Micro, ouais.
Voilà, pauvre micro. Et Simon, merci beaucoup pour ta contribution très
corsé, très costaud et ma voix cristalline comparée à celle de Maria.
Oui, bien sûr qu'on n'a pas entendu vraiment. Merci pour la mienne. Donc, ben voilà, on se reparle le 6 octobre dans deux semaines pour une autre édition des Apatrides Anonymes. On va se quitter en musique avec le groupe montréalais que vous connaissez peut-être, Esmerine, actif depuis 2003. C'est un quatuor de Montréal sur Constellation Records de la gang de post-rock, évidemment, un peu planante. Nouvel album qui s'appelle Everything Was Forever Until It Was No More, qui sort là en septembre actuellement 2022. La pièce s'appelle Number Station. L'album est plus mollo qu'à l'époque du post-rock Constellation, mais celle-là est quand même assez vivante. Donc, ben vous dire qu'ils seront le 2 octobre à la Salle Rossa dans le cadre de Pop Montréal. Donc, on se laisse avec Esmerine. Bonne soirée à tout le monde. Merci.
Bonne soirée.